c'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi. Deux livres, des oiseaux, de la photo, c'est le programme du jour.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui survole le Finistère en approfondissant néanmoins. Eh oui, on va s'envoler aujourd'hui en compagnie d'un invité qui nous est familier. Il est artiste, photographe, ornithologue. Il vient souvent nous raconter les oiseaux, mais il dessine aussi, en plus de prendre en photo nos amis à plumes. Il conjugue tous ses talents dans sa galerie à Camaret et dans des livres. Et il nous fait aussi découvrir d'autres artistes. Récemment, c'était la peintre Ilse Nel. Et là, il arrive avec deux livres sous le bras. Enfin, il y en a un qui est bel et bien sorti et puis un autre qui sortira un peu plus tard, mais on en parlera quand même. Le travail d'un autre photographe qui s'appelle Raphaël Salzedo, il nous dira qui est-ce, mais lui, vous l'aurez peut-être reconnu, c'est Serge Kerguat. Bonjour Serge.
Bonjour Véronique.
Alors, le livre de photos qui est devant moi, qui est en plus en plusieurs langues, enfin, il y a plusieurs exemplaires selon les langues, il s'appelle tout simplement « Oiseau », trois petits points, « L'autre regard ». Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, moi, on va détailler, hein, bien sûr, mais c'est un peu différent, voilà, des livres qu'on a l'habitude de voir. C'est pas que des photos cette fois.
Oui, voilà. Et c'est un peu un livre, une synthèse, on va appeler ça comme ça, parce que bon, ça fait des années que je dessine des oiseaux, et puis depuis 3 ans maintenant, j'avais commencé à les dessiner de façon un peu abstraite. Et puis, c'est vrai que ça provoquait un petit peu le public quelque part, et du coup, je me sentais pas trop à l'aise dans mes explications et c'est un peu ces entretiens différents que j'ai eu avec le public l'été là qui m'a amené à dire ben faudrait peut-être quand même donner des clés pour que les gens puissent comprendre comment on peut passer d'un dessin réaliste presque naturaliste pour certains à une abstraction complète de l'oiseau tout en y repérant soit un morceau d'œil, soit un morceau de patte, enfin voilà, donc dans le dessin. Et du coup j'ai un petit peu creusé, on va dire, dans la matière de dessin que je pratique depuis maintenant plus presque 50 ans, ouais, sinon plus. Et voilà, et ça a amené ce livre, Autre regard, avec une... Je voulais mettre en évidence comment c'est né cette abstraction, parce qu'en fait, j'arrivais pas à concevoir que je puisse faire de l'abstrait avec un oiseau.
Ah oui ? Oh ben tiens. Pourtant, là, ça paraît évident quand on regarde le livre.
Oui, mais je, c'est un petit peu comme si je me mettais à la place d'un oiseau qui regardait son portrait, et je le voyais taper avec sa patte sur le haut de son crâne en disant « il va pas bien, le père Kerguat ». Voilà, et donc ça me bloquait.
Ah ouais.
Et voilà. Mais c'est venu d'un coup, c'est au bout, comme un certain nombre d'évolutions dans ma partie graphique, c'est venu d'un coup. Et après, ça a évolué jusqu'à les derniers de ce livre où on voit le cormoran huppé, c'est le dernier dessin là, qui voilà. Et bon, c'est vrai que après, à la fin du livre, j'ai remis une espèce d'évolution graphique de cette construction de l'oiseau de façon différente.
Et depuis combien de temps est-ce que ça a commencé ces dessins abstraits?
Ça fait 3 ans.
Ah oui, oui, ouais. Quand même, parce que là, il y en a quand même un certain nombre. Enfin, pour donner une idée, donc déjà du livre lui-même. Donc, en fait, c'est très didactique, puisque justement pour comprendre, en fait, on a une photo de l'oiseau, on a un dessin parfois, enfin pas toujours d'ailleurs, d'un dessin réaliste, et ensuite on a la version abstraite. Et on comprend tout de suite. Enfin, moi, je me suis pas posé 10 000 questions, quoi. Vraiment, c'est une sorte de mosaïque de couleurs inspirées du plumage de l'oiseau. Enfin, pas de couleurs, pas que de couleurs. D'ailleurs, des motifs aussi. S'il y a des pois dans le plumage de l'oiseau, eh bien, il y a des pois dans le dans la mosaïque de dessin. Ouais. Dans la, et il y a l'œil toujours. C'est ça, à chaque fois, il y a un rond qui rythme l'ensemble et qui est tiré de l'œil. Alors, c'est pareil, c'est passé par le prisme du photographe, non ? Parce qu'il y a du reflet, par exemple.
Oui, voilà, oui, tout à fait. C'est clair que, de toute façon, c'est pour ça que dans ce livre, on trouve à la fois du dessin, donc du graphisme, et puis de la photo, puisqu'il y a à chaque fois un choix de photo qui rentre en ligne de compte. Parce qu'en fait, au départ, la photo me permettait d'avoir une proximité avec l'oiseau et de construire une image à partir de là. Et donc, c'est imbriqué de façon très, 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 très importante. Et bon, voilà. Mettre ça en avant, c'est pas simple. C'est-à-dire que, bon, tant que ça ressemble, il n'y a pas de souci. Mais ce qui m'étonne le plus, en fait, dans ce livre, c'est que, comme toi, les gens... Enfin, ils passent bien. Ils passent bien. Le public le reçoit... on va dire, de façon intéressante, ça amène à discuter, ça...
Oui, moi, par exemple, une question que je me pose, là, c'est que je vois, par exemple, le macareux moine, je vois que la mosaïque de couleurs a l'air énorme. Enfin, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de couleurs sur un vrai macareux moine. C'est pas des couleurs interprétées, c'est des couleurs qui existent vraiment sur le plumage du macareux moine.
Ben, en fait, quand tu regardes un macareux, d'abord, c'est vrai que son ventre est blanc, son dos est noir. Oui,
on a l'impression qu'il est bicolore ou
voilà,
tricolore.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et puis après, il y a le bec qui amène toute cette partie colorée, orange, noir.
On n'a pas le temps de voir ça, en fait, c'est vrai. Hein.
Voilà. Ouais. Et c'est un peu ça que j'ai voulu mettre en avant, cette espèce de... Ces textures, cette chromie qui est très très diversifiée, parce qu'en fait la plupart d'entre nous on voit une corneille ou on voit un oiseau noir, il est noir,
ouais, vite fait, voilà,
vite
c'est
fait, ça reste noir, alors que c'est souvent ce que je dis, quand on a l'occasion de voir une corneille ou un grand cormoran de près, eh ben on s'aperçoit que le noir, il n'y a pas de noir. Et
c'est ça.
C'est soit du vert avec des reflets métalliques, du violet, du rouge, du bleu. Enfin bon, voilà.
Ouais, il y a tout un camailleux, en fait, de... Ouais, même les rouges, les jaunes, enfin, c'est... Oui, alors il y a des oiseaux qui sont de fait très colorés, mais... Voilà, bon ben comme le, alors celui-là, je sais pas quel est son nom, c'est la fauvette.
Fauvette Sichu.
Ouais. Et ben vraiment très coloré, on voit quoi. Enfin on voit si on a le temps de la voir, parce que c'est pareil.
Oui,
quoi.
C'est un oiseau très furtif et effectivement là la photo est très utile pour fixer un certain nombre de choses. Mais ce que je voulais aussi montrer dans ce livre, c'est la, comment dire. Une réécriture, voilà. Je me rappelle de conversations que j'avais il y a des années de ça avec un peintre qui s'appelait Jean Tirilli, et il parlait d'alphabet, que l'artiste mettait des années à construire son alphabet, et qu'à un moment donné, il acquérait la possibilité de décrire des mots et de développer un langage qui lui soit propre.
C'est ça, oui. Ouais. Ben là, c'est vraiment le cas. Et comment s'est fait le choix des oiseaux ? Parce qu'évidemment, bon, ouais, y en a quoi, une trentaine à peu près ? C'est ça, j'ai pas compté, mais on pouvait pas tout mettre.
Non, ça...
Alors, c'était quoi le choix ?
Enfin... Bah, c'est... Comment dire, c'est d'abord ma relation forte avec ces oiseaux. Mmh. Hein, une petite histoire, parce qu'il y a aussi une partie texte.
Oui, il n'y a pas beaucoup de texte quand même,
non,
on peut dire.
Non, mais il y a une petite partie texte dans laquelle j'essaye de mettre une autre dimension et une autre relation à l'oiseau. C'est-à-dire que, on en a déjà discuté un petit peu de ça, mais pour moi, j'en parlais encore avec quelqu'un l'autre jour, c'est... prenons le pingouin torda, par exemple. Le pingouin torda, pour moi, c'est mon petit frère. Alors, ça, pour beaucoup de gens, ça veut rien dire.
Serge ne ressemble pas tellement à un pingouin torda, je vous rassure. Pas tellement.
Quoique, si j'en... Ouais, bon,
un peu, si.
Un peu, voilà. Mais je le ressens comme ça. C'est-à-dire, c'est aussi ça que j'ai voulu introduire dans cette façon de reconstruire et de... de dire oiseau à ma façon, voilà, c'est ça, que de le dire à ma façon, et de pouvoir y mettre du coup un côté plus sensible que le côté naturaliste ou photo pure, parce que c'est pas simple. Alors on arrive à construire des photos dans lesquelles on met aussi de la sensibilité, mais voilà, c'est, je voulais le montrer au niveau du dessin, parce que les premiers dessins d'oiseaux, j'ai dû les faire dans les fins des années 70, début des années 80. Donc ça fait quand même quelques années. Et donc j'ai voulu mettre cette synthèse et puis expliquer que petit à petit, la circulation d'informations, de sentiments, de ressentis, d'esthétique, enfin de plein de choses, tout ça se serait fondu pour donner ce nouveau langage, on va dire ça comme ça.
Et donc les textes, il faut préciser que ce n'est pas spécialement des textes naturalistes, justement, c'est vraiment des textes personnels sur ta relation avec l'oiseau en question, quoi. Enfin, c'est ça.
Tout à fait. Oui. Parce que c'est bon, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir pour ça, mais c'est aussi j'ai dans la tête depuis de nombreuses années de faire un collectage de témoignages de gens qui ont eu une histoire particulière avec un animal ou avec un oiseau.
Faudra faire une version sonore alors.
Voilà. Oui, non, mais ce serait bien justement bien. De témoigner de cette façon différente que les gens ont eu. Alors ça, c'est pas. Mais quand on creuse un petit peu le sujet, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont une histoire à vous raconter de quelque chose qui les a profondément marqué, d'une relation avec un animal, avec un oiseau. Ça peut être aussi un chat ou un chien, mais une dimension différente qui se tient pas avec des mots, dans laquelle il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de questionnements sur sommes-nous vraiment le centre du monde en tant qu'humain.
Il serait temps de se rendre compte que nous ne sommes pas le centre du monde. Mais bon, enfin, on se prend pour le nombril du monde, c'est sûr. Et ça serait plutôt les oiseaux sauvages alors que les oiseaux domestiques, parce qu'il y a des relations très fortes aussi de gens qui ont des serins ou des perruches, enfin... Ça serait plutôt avec des oiseaux sauvages, là, en l'occurrence.
L'idée de départ, oui, c'est ça. Mmh. Mais c'est aussi de dire, non, ça existe avec d'autres animaux, avec notre chien, avec...
On en parle souvent, des chiens et des chats.
Oui, mais pas sur cette rubrique-là, de cette dimension un peu différente de communiquer. Et la relation à l'autre, je ne sais pas comment on peut appeler ça, est-ce que c'est une conscience, est-ce que c'est, je ne sais pas, en tous les cas, c'est une façon différente d'être et un niveau de communication qui est largement, il est plus large, il est plus étendu, il est plus profond et il est plus sensible. Et les gens, quand ils vous parlent de ça, c'est... C'est souvent, il y a du vibrato dans la voix, quoi. On sent qu'ils sont perturbés dans leur certitude de dominant. On va dire
ça. Oui, mais c'est quand même plus difficile d'établir ce type de communication, proximité avec des animaux sauvages, que sont les oiseaux, majoritairement, quoi. Enfin, sauf quand on est comme Serge Kergoat à rester des heures essayer de les photographier. Mais souvent, les gens, ils n'ont pas le temps d'avoir ce type de... Si, avec les pigeons, peut-être, en nourrissant des pigeons.
Pas forcément. Moi, je pense à une histoire, je ne vais pas développer là, mais de quelqu'un qui était un chasseur et qui va faire une rencontre à un moment donné avec un corbeau, une corneille, et un truc qui va complètement le bouleverser, va l'amener à reprendre sa voiture et découvrir que le corbeau l'a amené chez lui parce que sa femme vient de décéder.
C'est des animaux très intelligents, tous les corvidés, comme on dit.
Ouais. Et donc on a...
Il y en a qui, d'ailleurs, se laissent apprivoiser.
Oui, tout à fait. Mais l'idée qu'il y a là et qu'on trouve on en trouve ça dans la Bible, on trouve dans les textes égyptiens, on trouve ça dans plein de témoignages de civilisations plus anciennes que la nôtre, et dans lesquels les oiseaux sont des porteurs d'une information différente. Et voilà.
Surtout les corvidés.
Oui, en plus.
Ou comme les pigeons voyageurs. Voilà.
C'est vrai. Puisque l'un des oiseaux qui va avec comment il s'appelle le Noé, un des premiers oiseaux, c'est le corbeau qui va aller repérer s'il y a des terres immergées, émergées plutôt. Mmh.
Et donc ce souhait donc dans ce livre Oiseau, l'autre regard, avec donc ces dessins en plus des photos et ces dessins abstraits, c'est qu'en fait aussi pour parce que bon ben les oiseaux, il s'agit de les défendre aussi hein, parce qu'ils sont pas tous en leurs effectifs, leurs populations sont pas tous en très bonne forme. Il s'agit aussi, c'est ça, voilà, de sensibiliser les humains à leur cause, c'est ça.
Ah ben complètement, de toute façon ça fait partie, c'est une ligne directrice dans mon approche, mais c'est effectivement de montrer qu'il y a une espèce de polymorphisme, ça faisait
des
longtemps. Ah oui, j'étais pas sûr de réussir à le placer.
Bravo.
Je m'ai fait une petite liste de mots aujourd'hui. Et donc, encore une fois, c'est... Il y a beaucoup de choses cosmiques aussi de traduction dans ce que j'imagine. C'est-à-dire que j'ai cette espèce de naïveté de croire qu'il y ait des informations qui circulent d'une autre façon que par le langage. Enfin, c'est au moins reconnu.
Mais c'est vrai que les yeux des oiseaux, en l'occurrence, on dirait des petites planètes.
Voilà, c'est ça.
Des drôles de petites planètes. Ouais, c'est vrai. Et donc, oui, voilà, il s'agit en fait d'être artiste, mais d'être toujours militant naturaliste en même temps, quoi, malgré tout.
Ah bah oui, de toute façon, mais...
On se refait pas.
Non, et puis c'est important de toucher les gens d'une autre façon, peut-être, que simplement de dire on a droit de faire ça, on n'a pas droit, ceci, enfin, toute cette... Ces règles que l'on met en place pour essayer de protéger, et puis dans le fond, est-ce que c'est pas ailleurs qu'il faut, c'est dans un côté plutôt, si on respectait les gens, on n'aurait pas toutes ces règles probablement à mettre en place, parce que ça serait dans notre culture, et bien sûr qu'on n'aurait pas à se creuser la tête de savoir s'il faut ou s'il faut pas.
Ouais, on n'aurait pas à interdire ou obliger. Voilà. On se le dirait soi-même.
Ouais.
Et les dessins là originaux, enfin surtout les dessins abstraits, ils sont en vente à la galerie éventuellement. Enfin,
on peut les acheter. Ouais. Ouais,
d'accord. Et un mot des textes. Alors il y a des textes signés Serge Kerguat et puis il y a des textes d'autres personnes. Qui sont ces personnes? Qu'est-ce qu'elles disent?
Oh ben, y a une amie qui s'appelle Elisabeth Doutre qui m'a mis un petit mot en introduction. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui a bien voulu me faire ce petit texte de synthèse pour essayer de me présenter un petit peu et présenter la démarche. Après, le texte suivant, Une vie à dessiner l'oiseau, c'est un texte que j'ai écrit. Et puis après, tout le reste des textes, c'est moi qui les ai faits, avec toujours Nicole qui cadre derrière ou qui revoit un certain nombre de choses, puisque j'ai souvent la plume rapide et des fois peut-être un peu trop, il faut un petit peu remettre en forme ou essayer d'être plus perceptible pour l'ensemble des gens. Quoi.
Mmh. Et donc pour ce qui est des espèces d'oiseaux présentées, il y a des oiseaux marins bien sûr, mais pas seulement. Hein, C'est presque moitié-moitié, non? Plus
à
d'oiseaux marins
près,
quand
oui,
même.
Oui,
ouais.
Ouais.
Mm-hmm. Et oui, il y a des canards. Enfin bon, bref, c'est vraiment donc l'oiseau, l'autre regard de Serge Kerguat, qui est aussi édité en breton et en anglais et en allemand. Non.
Alors non. La partie anglaise est traduite par Jean-Pierre Lemat, qui est quelqu'un du fou. Donc je connais depuis de nombreuses années, je lui ai demandé s'il voulait bien faire ce travail-là. Et la partie allemande, c'est une amie, Angela Billon, qui est de Plozévet, qui a traduit la partie allemande. Et les livres vont sortir, on va dire, pour le mois de mars.
D'accord. Enfin, les traductions, parce que là, on peut déjà se procurer la version en français.
Et
pour 20 euros.
Et bretonne aussi.
Et bretonne, d'accord. Très bien. Et alors, il y a un deuxième livre, en préparation, je le disais en introduction, consacré au travail d'un autre photographe, Raphaël Salzedo. Qui est-il, ce monsieur ?
Bah, en fait, Raphaël, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans mon atelier, qui est un ami de quelqu'un que je vois régulièrement, qui est Daniel Kilfen, et qui me l'a présenté. C'est un photographe qui a fait une grande partie de sa carrière sur Paris, il fait beaucoup de reportages autour de la Corse. Il était.
C'était un photojournaliste plutôt alors.
Oui.
D'accord.
Il travaillait aussi à l'école supérieure d'architecture à Paris.
Mm-hmm.
Et bon, voilà. Et un jour, il est venu me voir avec ce projet de livre là sur des tranches de pierre en fait.
Du minéral, là.
Oui,
plus,
c'est du
plus
minéral.
Plus d'animal.
Voilà,
okay.
Ouais. Et j'ai complètement été bouleversé, étonné par ce qu'il me montrait. Et donc, j'ai découvert un monde que je ne connaissais pas, alors que j'avais un peu appréhendé, parce que je m'intéresse beaucoup aux pierres aussi, mais pas de cette façon-là.
Pierres ordinaires, enfin pas spécialement des pierres précieuses, hein, on est d'accord.
Ce sont des agates quand même.
Ah oui, quand même. D'accord.
Ce sont des agates, et donc, ou des marbres,
ah oui.
Et dans lesquels, donc, quand on fait une tranche polie de ces pierres-là, il y a des images qui sortent, qui sont
des
paysages, des bateaux qui prennent la mer, des plages, des vagues. C'est complètement étonnant, et à tel point qu'au 15e, 16e siècle, il y a en Italie, où il y avait beaucoup de mines de marbre et de pierres de ce type, certains peintres se sont servis de ces fonds de pierre pour juste faire quelques réaux de peinture, et ça faisait des vrais tableaux. Il y avait quasiment rien à faire à part quelques touches pour rehausser des choses, et le travail était déjà fait, quoi.
Merci le marbre.
Ouais.
Ah oui. Et donc Raphaël Salzedo, il habite dans le coin maintenant. Enfin, il est.
Ouais. Je vais pas dire un vagabond, parce que c'est pas.
Ah aussi, les photographes sont toujours vagabonds.
Ouais,
c'est bien.
Il circule beaucoup.
Ouais.
Il promène entre Paris, Marseille, la région bordelaise. Il va aussi en Corse beaucoup. Puisqu'une partie de son travail, c'était des reportages sur la Corse qu'il a fait. C'est vrai que. Mais il a une maison à Crozon depuis de nombreuses années.
Donc il est un peu du coin quand même.
Ouais, ouais.
Voilà. Et donc là, dans ce livre, on verra uniquement son travail sur, sur les pierres, c'est ça ?
Oui, oh, oui ben, ça se justifie. Il n'y a rien à rajouter. Quoi.
Ah
alors,
ouais.
il a comment dire, mis les photos qu'il a choisies. Et puis,
à peu près de photos ?
Oh ben, c'est un livre qui est assez épais, il va faire 180
pages. Ouais. Ah oui.
Donc,
avec une photo par page ou plus ?
Non, en fait, il y a des doubles pages. Enfin, il y a des pages où il y a deux photos côte à côte. Et puis, pour pas mal d'illustrations, c'est illustré par des haïkus.
Ah oui, d'accord.
Et qui sont choisis en fonction du tableau qui est à côté, quoi. Et ce sont des petits poèmes japonais du 16e, 17e siècle.
Oui, il ne les a pas écrits, lui, pour...
Non,
d'accord.
Non.
Il les a choisis. D'accord. Ouais. Et donc, c'est, ce travail, il le fait depuis combien de temps, ce travail sur les pierres ?
Oh ben, ça fait bon nombre d'années, et il s'appuie sur des collectionneurs, parce que dans ce type de travail...
Oui, c'est pas lui qui va prendre les pierres et les couper,
ouais,
etc.
Ouais.
D'accord.
Donc il s'appuie, il y a M. Calois, il y a M. Boulle... Attends, j'ai un petit peu...
Oh, c'est pas grave, non, mais de toute façon les gens ne les connaissent pas, donc
ouais,
on n'a
ouais.
pas besoin des noms. Mais d'accord, c'est plusieurs personnes qui collectionnent donc ces marbres. Enfin, ces marbres ou ces agates.
Oui, c'est un menu très particulier. C'était Claude Boulet dont je voulais parler, qui sont des gens qui cherchent ces pierres-là, qui les collectionnent, qui les présentent en exposition.
Et en taille, elles font quelle taille, juste pour avoir une idée?
Ça peut varier, hein. Ça peut être une plaque de 20 par 20, ça peut être
centimètres. Oui, ah oui, c'est quand même gros, hein. C'est pas des petites tranches de petites pierres, quoi.
Voilà, et puis ça peut être même plus grand après. Mmh.
Très bien. Et donc Raphaël Salzado, son livre, le livre édité par Serge Kergouat, sortira quand alors?
On aura une vingtaine d'exemplaires avant Noël.
Ah oui.
Et le reste de la livraison se fera vers le 15-20 janvier.
Bon, très bien. Eh bien, c'est noté. Et on s'adresse à la galerie de Serge Kergouat si on veut en savoir plus, que ce soit pour l'autre regard, Oiseau, l'autre regard, ou ce livre, ce futur livre de Raphaël Salzado. Merci beaucoup, Serge.
Merci, Véronique.
À bientôt. C'est ainsi que se termine cette émission. Et on pourra réécouter cette émission et toutes les autres, d'ailleurs, sur le site internet de la radio. À bientôt.